Vous avez une question sur le logement, l'Adil 48 y répond sur 48 FM.
Adil 48,
l'agence départementale d'information sur le logement.
Alors la question, en a-t-il le droit ?
Effectivement, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, nous sommes là, vous pouvez nous contacter par courrier, par mail ou passer à l'agence, c'est encore le mieux.
Ce n'est que le logement, mais tout le logement.
Tout de suite, la minute de l'Adil.
Et bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de 48FM pour une émission spéciale aujourd'hui. Vous avez entendu le jingle de la Minute de l'Adil. C'est une émission spéciale pour la centième de la Minute de l'Adil, une heure de direct depuis le salon Artisan Nature à l'espace événement Georges Fraîche à Mende. Et à cette occasion, l'Adil est entouré de ses partenaires pour répondre en direct à une question, ou plus précisément aux nombreuses questions qu'on se pose au moment d'acheter un logement. Vous pourrez ainsi découvrir le rôle et les missions de certains partenaires de l'Adil et en bénéficier, en plus des conseils juridiques, financiers et fiscaux des conseillères de l'Adil, de conseils techniques, énergétiques, architecturaux et pratiques. Alors autour de cette table, pour cette émission un peu spéciale, on retrouve bien sûr Aurélie Poligala et Héloïse Coste de l'Adil. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Caroline Entregue, architecte conseil au CAUE. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Sylvain Pralon, conseiller énergie à l'agence locale de l'énergie et du climat Lozère Énergie.
Bonjour.
Et Sophie Barriel de la CAPEB Lozère. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors la question que l'on nous a posée, un couple marié, alors qu'on appellera Nico et Steph, a le projet d'acheter une maison ancienne pour en faire sa résidence principale. Ils ont repéré une maison qui nécessite des travaux importants, notamment d'amélioration de la performance énergétique, mais aussi d'aménagement, de mise aux normes et de décoration. Ils ont regardé longuement sur Internet et ont trouvé pas mal d'infos, mais ils sont un peu perdus. Par quoi commencer ? Faut-il faire réaliser des devis ? Mais ils ne savent pas trop quoi faire comme travaux. Aller voir la banque ? Mais ils ne connaissent pas précisément le budget dont ils ont besoin. Signer le compromis pour la maison ? Mais que se passera-t-il s'ils n'ont pas le budget pour faire les travaux ? Finalement, ils contactent la DIL afin d'avoir des conseils et d'organiser leur démarche. Très bonne idée, Héloïse.
Très bonne idée, l'idée que tout le monde devrait avoir, alors, effectivement, c'est de venir nous rencontrer à la DIL.
Voilà, alors qu'est-ce qu'on conseille, Nico et Yastef ?
Alors, il y a effectivement énormément de conseils hein, qu'on peut leur apporter, et puis on va profiter d'être réunis aujourd'hui avec tous nos partenaires pour leur apporter toutes les réponses, ou en tout cas une bonne partie à leurs questions. Nous, la première chose qu'on va essayer de faire avec ce couple, c'est de les aider à déterminer leur budget, parce qu'effectivement, du budget va aussi déterminer un petit peu les travaux qu'ils vont pouvoir réaliser. Et peut-être que l'extension qui était prévue, elle va être un petit peu différée dans le temps ou certains travaux qui vont pouvoir être envisagés sur plusieurs temporalités différentes. Donc établir un budget, ça peut paraître facile, mais ça l'est pas forcément, puisqu'il va falloir effectivement déterminer précisément la capacité d'emprunt du ménage. Pour ça, on va les aider un petit peu à lister quelles sont leurs ressources disponibles. Alors bien sûr, leur salaire, leur revenu mensuel, mais il peut y avoir aussi des pensions, des rentes, de l'épargne, des loyers qui tombent tous les mois, des aides au logement, des aides de la CAF, des prestations familiales, etc. Donc on va lister un petit peu avec eux toutes les recettes qu'ils ont. Et puis également leurs charges, leurs dépenses. Quelles sont aujourd'hui leurs dépenses courantes en termes de loyer, de crédit en cours, éventuellement de frais liés au déplacement, etc. Et leurs charges. Et avec l'ensemble de ces éléments, on va déterminer avec eux un taux d'effort, c'est-à-dire quelle mensualité vous pensez pouvoir mettre dans un prêt immobilier, sachant que effectivement, souvent on dit à peu près un tiers des revenus disponibles. Maintenant, un tiers, ça doit être un petit peu pondéré en fonction de la composition de la famille. Est-ce que je suis seule ou est-ce que j'ai 3-4 enfants ? Donc forcément, il faudra aussi prendre en compte le reste à charge. Et puis, quelles sont les habitudes de vie, les capacités d'épargne actuellement, etc. Une fois qu'on va avoir déterminé ce taux d'effort, cette capacité d'emprunt, on va aussi regarder avec eux quelles aides, quelles pré-aidées ou quelles subventions ils vont pouvoir mobiliser dans l'absolu. Là, on voit qu'effectivement, le projet, par exemple, les travaux, ils sont pas encore complètement définis. Donc, ça va être difficile de leur dire précisément, vous aurez droit à telles aides. Mais on va leur présenter un petit peu les dispositifs d'aide qui existent, vérifier avec eux ceux auxquels ils pourraient être éligibles. Et du coup, intégrer dans le diagnostic financier ces différents prêts, ces différentes aides qui peuvent exister. on va pouvoir du coup leur donner ce qu'on appelle un diagnostic financier. Donc c'est une simulation financière qu'on fait avec un outil de notre réseau, du réseau des Adil. Et donc on va leur remettre ce diagnostic financier qui va leur dire, pour votre projet, vous avez un budget maximal de 150 000 euros, 200 000 euros, etc. Ce budget maximal, on va leur expliquer qu'il prend en compte l'ensemble des frais liés au projet. Donc les frais, le prix d'achat, effectivement, mais également tout ce qui est frais de notaire qui va avec. Et puis les frais liés à l'emprunt, auxquels on pense parfois moins souvent. Effectivement, il va y avoir le taux d'intérêt, l'assurance des invalidités, les frais de garantie, les frais de dossier. Donc on va prendre aussi en compte tout ça. Les sensibiliser aux impôts, puisque quand on est propriétaire, on va avoir une taxe foncière à payer. On va peut-être avoir des charges différentes en termes de chauffage, etc. Et puis éventuellement les frais de déménagement, etc. Donc on va aussi les sensibiliser à tout ça. Leur présenter donc les prêts immobiliers et puis on va leur présenter également les partenaires qui peuvent intervenir dans le projet et les renseigner sur notamment là dans le cas de ce couple sur des conseils pour adapter, aménager leur logement. On voit que c'est une maison ancienne qui va nécessiter des travaux. Ils savent pas tellement par où commencer, donc on va les orienter par exemple vers l'architecte conseil du CAUE, vers Caroline, pour qu'elle puisse les aider à déterminer un petit peu plus en détail leur projet et ensuite qu'ils puissent faire réaliser les bons devis de travaux en fonction du projet. Tu peux nous en dire plus, Caroline ?
Bien oui, donc du coup, c'est avec plaisir que je reçois Nico et Steph. Donc, la première question qu'on va se poser quand ils vont arriver, c'est de regarder tout d'abord si la commune a un document d'urbanisme, puisque les communes peuvent avoir un PLU, ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme, peuvent avoir une carte communale, peuvent avoir une charte paysagère, ou peuvent être au règlement national d'urbanisme, ce qui est la plupart du temps le cas. Donc du coup, on va regarder ça avec eux pour regarder s'il y a un règlement sur l'aspect extérieur de leur façade et s'ils sont également un secteur sauvegardé, c'est-à-dire un secteur soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc ça permet de savoir dans quel cadre réglementaire on a le droit de modifier l'aspect extérieur. Ne serait-ce que pour un changement de fenêtre, on modifie l'aspect extérieur, donc ça doit répondre à des normes. Ensuite, on va travailler ensemble ce bâti ancien. C'est vrai que quand on veut rénover un bâtiment ancien, il faut pas avoir le même réflexe que sur un bâtiment neuf. On a un bâtiment qui a des qualités qui sont vraiment spécifiques et qu'il faut absolument conserver et il faut travailler avec ce bâtiment ancien. C'est un bâtiment, souvent, alors on va dire vulgairement, qui respire. En fait, c'est un bâtiment qui va laisser passer la vapeur d'eau et donc il faut travailler avec des matériaux qui vont être ce qu'on appelle perspirants, donc les fibres naturelles, la chaux, le chaux-chambre, on le verra peut-être tout à l'heure, et éviter tout ce qui est matériaux trop étanches. Le polyuréthane, etc.
C'est vrai que ça, c'est à prendre en compte parce que les travaux peuvent vite monter, peuvent vite chiffrer si jamais on est obligé, par rapport au bâtiment de France, d'utiliser un certain style de matériaux.
Alors le coût.
Je pense
est
à
pas...
la toiture, je pense aux fenêtres, à tout ça.
Bien sûr, donc c'est surtout sur la partie toiture qui aura le plus de surcoût. Sur une menuiserie, le surcoût est pas non plus par rapport à l'enveloppe des travaux d'une maison, que la menuiserie soit en bois, en alu ou en PVC. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même à peu près les mêmes gammes de prix, même si le PVC reste un peu moins cher. Mais en termes de qualité, de durabilité, on s'y retrouve de manière assez simple.
Mais c'est vrai que c'est vraiment important de prendre en compte l'ensemble de ces frais, de ces travaux dès le début du projet pour pas avoir de mauvaises surprises. Il s'agit pas d'avoir les moyens d'acheter le bien et puis de pas avoir les moyens de le rénover et du coup de se retrouver coincé dans ce projet immobilier. Donc c'est vrai qu'on peut avoir l'impression des fois de perdre un peu de temps à aller voir les organismes de conseil, etc. Alors qu'au final on en gagne vraiment et on va pouvoir construire un projet global cohérent.
Et puis c'est vrai que quand on rénove une maison ancienne, c'est aussi parce qu'on aime le charme du bâtiment ancien. Et donc nous, la CAUE, on est vraiment là aussi pour conseiller les particuliers sur comment on fait pour conserver ce charme du bâti ancien tout en ayant la qualité de vie contemporaine qu'on recherche aujourd'hui. Du coup, on dit souvent que la rénovation est onéreuse, comme tu le disais Ludo, mais en fait, il faut vraiment arriver à comprendre comment est construit le bâtiment ancien et faire avec ses qualités pour aménager le plan à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va faire le plan de comment vivre dedans en fonction de comment le bâtiment est fait. Ou est-ce qu'il y a déjà des fenêtres existantes? C'est vrai que si on modifie des murs porteurs, on crée de nouvelles ouvertures, donc c'est-à-dire qu'on remodèle complètement le bâtiment existant, là on va avoir des coûts de rénovation qui vont être exorbitants. On va être aux alentours des 2 000-2 200 euros du mètre carré si on fait vraiment quelque chose qui ne respecte pas du tout la structure du bâti ancien. moins on évite de toucher au mort porteur, et du coup, moins on a de coûts importants. D'où l'importance de la conception dès le début du projet de rénovation.
Et du coup, Caro, est-ce que tu peux nous redire un petit peu avec quels documents les ménages ils viennent te rencontrer, puisque je crois que tu fais pas de visite directement à domicile, donc.
Oui, donc du coup, nous on fait pas de visite à domicile, puisque je suis la seule architecte conseil pour l'ensemble du territoire lausérien. Et puis on a une mission de conseil gratuit. On n'est pas des architectes maîtres d'œuvre qui vont faire des plans de permis de construire. C'est pas l'intérêt. On est vraiment en amont de la réflexion, au même titre que la DIL. Et du coup, les gens viennent nous voir. Donc soit lors des rendez-vous délocalisés, qu'on a plusieurs lieux en Lausère, je vais pas tous vous les citer. Soit directement à Mende, ils viennent avec des photos, quelques mesures s'ils ont, et on arrive tout à fait à les conseiller. Et puis après, il faut réfléchir, bien sûr, avec les habitants, enfin Nico et Steph pour le coup, comment ils veulent vivre dans cette maison. Est-ce qu'ils veulent une grande cuisine ouverte? Est-ce qu'ils veulent que les enfants jouent dans leur chambre ou jouent dans le salon? On ne va pas concevoir tout à fait les choses de la même manière. Et ce qui est intéressant sur le bâtiment ancien, c'est qu'on a un bâtiment qui est peu large, donc on peut avoir des pièces traversantes. C'est-à-dire qu'ils ont la lumière toute la journée. Et c'est vrai qu'il faut travailler vraiment avec ces qualités du bâti ancien. Et puis ensuite, on va à peu près évaluer le coût de cette rénovation, hein, sur terme de ratio au mètre carré. C'est vraiment pour avoir une idée et voir si l'enveloppe qu'ils ont définie avec la DIL correspond à peu près à l'enveloppe des travaux qu'il y aurait à réaliser. Et puis en fonction de ça, et bien ensuite, pour la suite, on leur préconise, est-ce qu'il faut aller voir un architecte, soit pour une mission complète qui suit les travaux, soit pour une mission partielle où il fait juste les plans. Est-ce que Nico et Steph se sentent de faire des plans et passer entreprise par entreprise et c'est eux qui coordonnent les travaux? Est-ce qu'ils veulent passer par une entreprise générale qui va tout réaliser? Voilà, on présente un peu tous ces choix-là. Souvent, ils l'ont aussi vu avec la DIL en amont. Et puis après, se pose la question, une fois qu'ils ont fait un peu leur plan précis de comment ils ont envie de vivre, la question plutôt technique de comment je chauffe, comment j'isole. Voilà, toutes ces questions-là qui viennent dans une deuxième temps. Et du coup, on les envoie vers Lausère Énergie pour voir avec eux toutes ces questions.
Eh bien, ça tombe bien. Ils sont avec nous aujourd'hui.
N'est-ce pas ? Donc du coup, une fois qu'ils ont rencontré Nico et Steph, ils ont vu la DIL, ils ont vu un peu la enveloppe financière, ils ont vu Caroline, où ils ont vu le côté... on va dire légal quand ils touchent à l'extérieur de la maison. Ils ont vu, et ce qui est très important, comme le disait Caroline, comment ils vont vivre dedans. On va pouvoir un peu plus définir leur projet sur avec quels matériaux isolés et comment chauffer. Sachant que nous, notre priorité, ça sera toujours de d'abord regarder l'enveloppe du bâti. Donc comment isoler la maison, avec quels matériaux, quelle épaisseur. Est-ce que on peut se permettre de peut-être certaines façades, certains murs de moins les isoler par rapport à la surface qu'éventuellement on pourrait perdre. Quel est l'avantage de l'isoler aussi pour pouvoir peut-être faire passer derrière des réseaux et du coup comment vivre aussi par rapport et quel volume de pièces on veut pour adapter bien sûr le chauffage derrière quoi. Et on va essayer de prioriser tout ça, sachant que, bien sûr la priorité ça va être l'isolation, toit, mur, sol. Les huisseries ensuite, et après on va pouvoir calibrer un chauffage dessus. Si dans la rénovation les gens ils veulent absolument un plancher chauffant, ben du coup il va falloir vraiment insister sur l'isolation, et donc on pourra peut-être voir de travailler avec une pompe à chaleur ou des chaudières à bois granulé ou à bois bûche qui vont être peut-être un peu plus performants, qui vont permettre de travailler comme ça en basse température. On va pouvoir aussi du coup commencer à calibrer aussi les puissances de chauffe. C'est vrai que des fois, lorsque les devis sont faits, les artisans, ils donnent ça à leurs fournisseurs, ils prennent des volumes, ils prennent des fois pas forcément en compte le fait qu'on va plus ou moins bien isoler. Et on se retrouve avec des fois des pompes à chaleur ou des chaudières un peu surdimensionnées. Tout le monde prend sa part de sa marge de sécurité, mais voilà, ce qui permet des fois aussi un peu là-dessus de jouer, de baisser un peu le prix de l'installation derrière. Donc on va regarder les matériaux, on va essayer de faire des choix. Est-ce que sous le toit, vous allez avoir des chambres? Est-ce que ça va être des combles perdus? Donc là, les matériaux, peut-être si on a un peu moins d'argent, eh bien, même si c'est pas forcément le meilleur, peut-être on pourra se dire, bon, on est au milieu de la Margeride, par exemple, il fait un peu moins chaud et j'ai des combles perdus. Si on doit économiser un peu d'argent pour mettre quelque chose de plus performant ailleurs, eh bien, on va peut-être mettre du coup la laine de roche plutôt que de la laine de bois ou de la ouate qui sont peut-être un peu plus chers, même si c'est des matériaux plus naturels.
Mais ce qui est intéressant, je me permets d'intervenir, c'est qu'effectivement, il y a tout ce comparatif neutre qui peut être fait entre les avantages et les inconvénients de tel ou tel matériau pour que le ménage il fasse ses choix en toute connaissance de cause, parce que effectivement il y a tellement, on lit tellement de choses, on entend tellement de choses sur internet, etc., que voilà, d'avoir ces conseils clairs qui nous disent, ben, c'est l'avantage de tel isolant par rapport à tel autre, c'est celui-là, son inconvénient, ben, parfois c'est le prix, mais parfois c'est autre chose, c'est il est volatile.
C'est ça qu'il va falloir qu'on joue sur l'épaisseur, la résistance thermique, l'inertie, enfin le déphasage que va avoir l'isolant, c'est-à-dire sa capacité à absorber la chaleur et à la restituer pour un meilleur confort d'été, sa performance du fait d'être comme le polyuréthane qui n'est pas forcément requis en bâti ancien, mais qui va être quand même moins épais et donc on va pouvoir gagner un peu de place. Peut-être qu'il peut, il peut correspondre à un endroit sous un plancher chauffant, mais on peut très bien faire des dalles à un chaud-chambre aussi, qui va permettre, avec un hérisson ventilé, de bien garder la maison qui va respirer, comme disait Caroline, tout en étant très performant derrière au niveau du rendu du chauffage, quoi. Donc ça, nous, on va vraiment travailler sur ça. D'abord l'enveloppe, et puis après pouvoir calibrer le chauffage au mieux. Et bien sûr, penser à la ventilation. Dans le bâti ancien, c'est important, ça participe à au fait que le logement doit respirer, et puis du coup on est à Lozère aussi, et il y a une question importante qui se pose, c'est celle du radon, où du coup il faut, avec une maison qu'on va rénover qui va être plus hermétique, un peu plus étanche à l'air, et là il faut bien penser à la ventilation aussi pour éviter justement trop de pic de radon dans la maison. Quoi.
Aurélie, tu peux nous rappeler ce qu'est le radon ?
Le fameux radon. Mmh. Le radon qui est un gaz naturel radioactif, donc effectivement qui se dégage de par la décomposition du sous-sol rocheux, hein, sur lequel on se trouve, majoritairement sur le sous-sol granitique, mais on en retrouve aussi notamment dans le sous-sol schisteux. Et donc en se décomposant, enfin l'uranium qui continue dans la roche, en se décomposant, va subir tout un tas de transformations chimiques qui va aboutir effectivement à un gaz qui émane donc du sol qui s'appelle le radon, et qui, alors autant à l'air libre, il se disperse et ça pose pas forcément de risque pour la santé, autant dans des espaces clos comme en logement, en remontant par les caves, les vides sanitaires, etc., ça va se confiner dans l'intérieur si on a mal pensé, mal calibré la ventilation des logements, les matériaux qu'on utilise, etc. Et c'est là où on peut se retrouver avec un risque important pour la santé, puisque c'est un gaz qui est cancérigène. Voilà, qui entraîne souvent, quand on y est exposé sur une longue durée et à un taux qui est suffisamment important, ça entraîne des cancers des voies respiratoires. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte, et on a les artisans de rien qui ont été sensibilisés à ce sujet, puisqu'il y a eu l'année dernière, je crois, Sophie va nous en dire un peu plus, mais il me semble que c'était l'année dernière, des réunions justement sur le radon et comment anticiper ces travaux-là, que ça soit dans le cadre d'une rénovation ou une construction, oui.
Oui, effectivement, il y a un travail qui a été mené avec l'ARS pour sensibiliser les artisans et pour regarder comment on peut faire face à la limitation de ces gaz de radon. Donc voilà, effectivement, il faut vraiment prendre en compte la façon dont on respire, dont on doit laisser respirer le bâtiment. Il faut absolument pas faire des maisons KOE. Et c'est vrai que nous, avec la CAPEB, on travaille en partenariat aussi avec l'École nationale du chanvre, et on promeut de plus en plus les matériaux biosourcés, parce que les matériaux biosourcés, laisse respirer la maison. Et notamment sur des maisons anciennes, en pierre, ça a aussi la faculté de gérer l'humidité des maisons. Ça a une vraie faculté d'absorber l'humidité, et du coup, ces maisons sont beaucoup plus saines. On voit souvent, c'est vrai que nous, on nous appelle régulièrement en nous disant, j'ai des soucis d'humidité dans ma maison qui date de 1700 ou 1800. Si on isole comme il faut et qu'on évite le polyuréthane pour mettre des matériaux biosourcés, pour mettre notamment du chaud chambre, on va se rendre compte qu'on a un vrai confort dans la maison, qu'on a moins besoin de chauffer que dans une maison moderne. On a une sensation de bien-être dans ces maisons-là. Et on nous parle souvent du surcoût de ce matériau-là. Ce surcoût, il faut le calculer, mais par rapport à quoi ? Surcoût le jour où on paye la facture ? Oui, effectivement, on peut se dire qu'il y a un certain surcoût le jour où on paye la facture. Maintenant, sur du long terme, c'est des matériaux qu'on est assuré que 100 ans après, ils ont exactement les mêmes performances. On peut dire ce qu'on veut, on peut parler, ben voilà, on compare souvent, on revient souvent à notre fameuse laine de verre. La laine de verre, au bout de 10 ans, elle a perdu de ses capacités. Le béton de chanvre, pas du tout. Au bout de 100 ans, il garde exactement les mêmes performances que le jour où on l'a mis. Et puis, on parle de surcoût, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus important que la santé ? La santé n'a pas de prix, on est d'accord. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut, peut-être moins regarder le côté esthétique où oui, je veux faire tel type de travaux, mettre tel type de spot parce que c'est beau, parce que ma maison elle va être canon. Mais derrière, il faut regarder aussi l'aspect santé, l'aspect bien-être dans sa maison.
Ce sont des conseils que tu donnes aussi, Caro, quand on vient de te voir.
Oui, en fait, on dit souvent que dans le bâti ancien, il fait toujours froid. Mais en fait, ça vient des matériaux qu'on utilise. Quand on rénove mal, en fait, on a un sentiment de conductivité thermique avec le bâti. Par exemple, quand on touche du métal, le métal, il nous paraît froid. Et si on rénove mal notre maison, eh bien, on aura cette sensation de froid qui va se faire avec le matériau. Si on laisse la pierre apparente, par exemple, on va avoir, la pierre va absorber notre chaleur. Et même s'il fait 19 dans la pièce, je vais avoir froid, je vais sentir plutôt une température de 17.
Voilà. Mais c'est joli la pierre apparente.
C'est joli la pierre apparente, mais ça peut être que ponctuellement, voilà, parce que sinon c'est vrai qu'on surchauffe en fait. Voilà. Et on a un meilleur confort thermique avec des matériaux qui ont une conductivité moindre, et notamment les fibres naturelles.
Et du coup, c'est vrai que nous, dans nos conseils, on insiste aussi beaucoup sur le confort qu'on va avoir, et notamment dans le bâti ancien. Voilà. Les gens, comme vous dites, la pierre, c'est joli, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'à un moment donné, quand ils seront sur leur canapé devant leur beau mur en pierre, eh bien, ils vont avoir froid, ils vont avoir tendance du coup à mettre plus de chauffage. Et donc, à la fin, la facture d'énergie, c'est même pas la facture des travaux, c'est la facture d'énergie, elle va être beaucoup plus importante. Donc après aussi, ce qu'on essaie de, comme disait, je crois, Héloïse au début, c'est aussi phaser les travaux. Quand on a un budget qui est restreint, c'est se dire prioritairement, il va falloir qu'on travaille sur cette partie de l'enveloppe, et plus tard quand on aura peut-être un peu plus d'argent, d'autres aides, etc., on va pouvoir travailler sur celle-là et phaser pour se dire dans 5, 10, 15 ans peut-être notre maison elle sera thermiquement, énergétiquement le mieux possible. Et après du coup ça permet aussi peut-être des fois de se dire, comme disait Sophie, ben là bon j'attends un peu pour mettre des matériaux qui seront plus sains pour moi pour l'avenir, quoi.
Voilà, donc c'est vrai que comme Nico et Steph auront vu le CAUE et l'espace Info Énergie de Lozère Énergie, ils auront un petit peu leur, j'ai envie de dire leur ordonnance, leur prescription, en tout cas leur recommandation de ce qui pourrait être bien pour la rénovation de cette maison. Et donc on a envie de redonner une petite couche de conseils juridiques parce qu'effectivement, ils vont pouvoir du coup affiner leur financement, mais ils vont aussi commencer à s'engager dans cette opération. Et du coup, quand on achète un logement à rénover, on va signer plein de choses. On va signer un compromis, on va signer un acte de vente, on va signer un contrat de prêt, on va signer des devis, des contrats d'entreprise. Et chaque signature, elle engage quand même. Donc voilà, c'est intéressant qu'on les sensibilise à tous ces aspects-là. Et voilà, et en plus, bon là, ils sont mariés, mais voilà, des fois, on a aussi des couples qui ne sont pas mariés. Donc, il y a tous ces aspects. Donc, peut-être Aurélie.
Oui, alors on pourrait en parler toute l'après-midi. C'est pas l'idée, mais il y a effectivement tout un tas de choses qu'il va falloir intégrer. Donc là, on s'est beaucoup penché sur le côté technique, financier, qui effectivement, c'est la première des questions qu'on se pose. Ce sont les premières questions qu'on se pose pour savoir si oui ou non, a priori, on est sur un projet qui est réalisable. Mais quand on commence comme ça à affiner un petit peu le projet, ensuite, il faut vraiment se pencher sur les modalités pratiques, techniques. Donc, penser à demander des documents aux vendeurs pour vérifier si la faisabilité de ce qu'on envisage est possible. Je pense notamment au dossier de diagnostic technique avec le fameux diagnostic de performance énergétique, savoir s'il y a de l'amiante dans la maison, du plomb, ce genre de choses, qui vont aussi permettre de confirmer les prescriptions de travaux des partenaires, qui vont permettre éventuellement de renégocier un petit peu le prix avec le vendeur, puisque si on a des documents qui attestent qu'il faut faire de gros travaux de rénovation énergétique, qu'il faut pallier la présence d'amiante, c'est des choses qu'on va pouvoir budgétiser et éventuellement essayer de négocier avec le vendeur. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir demander. S'il y a des travaux qui ont été faits il y a moins de 10 ans, il faut penser à demander l'attestation de dommage ouvrage. Ça, c'est très important. Et puis, l'ensemble des risques liés à la situation du bien, si on est en zone inondable, ce genre de choses, ça va rajouter encore des contraintes peut-être d'un point de vue des travaux si on est en zone inondable. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et après, il va falloir sécuriser le projet de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, comme le disait Caroline tout à l'heure, on va pouvoir se trouver dans une zone où, d'un point de vue extérieur, sur l'aspect du bâtiment, on va peut-être pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. Si on veut faire une rénovation, si on veut isoler par l'extérieur, si on veut faire une extension, créer une baie vitrée qui n'existait pas, remplacer la toiture, etc. Et si vraiment notre projet, il est intrinsèquement lié, je sais pas moi, à une extension, parce que le bâti tel qu'il est aujourd'hui, il est trop petit pour notre projet familial, on veut faire une extension de 20 mètres carrés, et que à l'endroit où on est situé, c'est pas possible, etc., où il y a un gros point d'interrogation, ça va être primordial dans le contrat, dans le compromis, et après dans l'acte de vente, de faire figurer des clauses qui vont permettre de sécuriser ça, c'est-à-dire notamment une condition suspensive liée au fait d'obtenir l'autorisation d'urbanisme ou d'obtenir l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France, enfin de vérifier que le projet est faisable du point de vue architectural, pour se sécuriser et dire bah si mon extension elle est pas possible, moi j'arrête tout puisque ça correspondra pas à mes envies. Donc il y a tout ce côté vraiment sécurisation du projet à prendre en compte. Après on va accompagner le ménage dans l'explication de comment ça va se passer, la signature du compromis de vente, qu'est-ce que ça va contenir, à la relecture du compromis, sur quoi est-ce qu'il va falloir que je sois vigilant, la description du bien, la superficie du jardin, enfin voilà, vraiment les accompagner dans la relecture, leur expliquer comment ça va se passer, le fait qu'il va falloir verser une somme d'argent à ce moment-là, le fait que ça va ouvrir un délai de rétractation pendant lequel on va pouvoir se retirer de notre engagement sans y laisser des plumes, si je puis dire, sans frais, mais qu'une fois que ce délai sera passé, si on n'a justement pas assez correctement sécurisé notre projet, on est définitivement engagé, donc si on veut se retirer, on va pas pouvoir le faire sans laisser l'acompte qui a été versé au vendeur. Voilà, vraiment tout ce côté-là, et puis on va aussi... D'autant plus quand on est sur un bâti ancien avec des gros projets de travaux, on va pouvoir aussi parler de tout ce qui est contrat d'entreprise avec les artisans, puisque c'est quelque chose où on y pense assez peu. L'artisan fait passer un devis, on le relit, on le contresigne, et puis voilà, en avant. Mais il y a des questions à se poser sur la relecture du devis déjà, les mentions qui sont comprises à l'intérieur. Est-ce qu'on est sur un prix qui est forfaitaire, par exemple, ou est-ce qu'on est sur un prix à l'unitaire, au mètre carré, au mètre linéaire? Ça va avoir une importance, puisque si sur le chantier, on se rend compte que finalement, il y avait un métrage supérieur, si on est au forfait, bah, ça, entre guillemets, ça va être tant pis pour l'artisan, mais si on n'est pas au forfait, ça va être un surcoût pour le client, et penser à toutes les modalités pratiques, c'est-à-dire si j'ai pas prévu de durée de validité du devis, si j'ai pas prévu de délai d'exécution, à partir de quel moment est-ce que l'artisan il va commencer à réaliser les travaux, quelle est la durée estimative du chantier, s'il est en retard qu'est-ce qui se passe, les modalités de paiement, est-ce qu'on est sur un acompte, est-ce que on paye tout à la fin, si je suis pas content entre guillemets de la qualité de la réalisation des travaux, qu'est-ce que je peux avoir comme voie de recours pour me sécuriser, qu'est-ce que c'est un PV de réception. Voilà, il y a autant de choses qu'on peut aborder. C'est pour ça que je dis qu'on aurait pu en parler tout l'après-midi. C'est vraiment pas l'idée, mais c'est voilà, pour donner des pistes comme ça de choses auxquelles il faut, de façon rapide ou non, mais sur lesquelles il faut se pencher, s'interroger et éventuellement discuter avec la DIL et puis son artisan, puisque ça reste du coup quand même l'interlocuteur privilégié sur cet aspect-là.
Bah du coup, du côté des artisans, on peut faire le même conseil, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que enfin, nous, notre travail à la CAPEB, c'est aussi d'accompagner les artisans pour sécuriser leurs documents juridiques. Donc, comment je fais un devis correct? Comment je le fais conforme à la loi? Quelles que sont les conditions générales de vente que je dois mettre? Et du coup, bah, c'est aussi cette relation-là qu'il faut entre le client et l'artisan. Il faut que le client ait confiance en l'artisan et il faut que l'artisan soit le plus clair possible dès le départ pour qu'il n'y ait pas de confusion. Moi, c'est vrai que sur ces questions de devis et de maîtriser de la maison, moi je leur dis mais si vous voyez qu'il y a une erreur, il faut absolument faire un devis rectificatif ou faire un avenant au premier devis. Absolument. Et il faut le faire signer au client, parce que voilà, c'est vrai que c'est toujours embêtant d'aller en procédure avec un client pour des questions comme ça, par rapport à des questions de maîtriser où ils sont
pas compris et où finalement l'artisan n'a pas su dire à un moment donné il y a une erreur sur les chiffres quoi. Donc nous on leur conseille de bien faire signer le devis, de faire des modifications de devis quand il y en a besoin, de refaire signer ces modifications de devis. Voilà, l'acompte que l'artisan demande en général aux clients, en général on nous en entoure de 30%, cet acompte là doit servir à acheter les fournitures du chantier en question. Donc ça aussi, il faut en parler. Il faut dire, ben voilà, le chantier, il va démarrer que dans 6 mois. L'acompte, je ne vais pas l'encaisser de suite. Je vais attendre j'encaisserai dans 3 mois. Et ça, il faut que ce soit clair aussi entre les deux parties. Il ne faut pas que le client aussi se retrouve à voir cet acompte encaissé sans qu'il ait été prévenu. Je pense qu'il y a aussi un travail que nous devons faire aussi avec nos artisans pour qu'il y ait une meilleure communication avec le client. Et quand la communication est bien faite entre le client et l'artisan, en général, il n'y a aucun problème.
Oui, c'est comme pour tout, c'est quelque chose qu'on répète souvent à la DIL. Une fois que les règles du jeu sont posées à l'avance, c'est clair pour tout le monde, effectivement, on sait dans quoi on s'engage, et il y a beaucoup moins de surprises, enfin de risques de surprises, et donc de risques de litige. C'est important de tout bien caler à l'avance, de faire le tour des partenaires, de discuter avec son artisan.
C'est vrai qu'on est aussi un peu, en Lozère comme ailleurs, dans plein de zones rurales, un peu sur une tradition de la patch, une tradition de la confiance, de l'accord oral qui est donné, qui a une valeur, etc. Et l'idée, c'est pas du tout de remettre ça en question, mais seulement ce qui compte quand même à la fin, c'est ce sur quoi on s'est engagé, qu'on peut prouver, et donc sur les écrits. Et c'est pour ça qu'on insiste un peu et que parfois dans le conseil juridique, on peut sembler un petit peu rigide à la DIL, mais parce qu'effectivement, c'est l'écrit qui va compter et que parfois, entre un professionnel et un non-professionnel, on n'entend pas les mêmes choses quand on parle de certains moins. À quoi correspond le début et la fin du chantier en termes de finition, de choses comme ça, parfois, on n'entend pas les mêmes choses parce qu'on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas les mêmes habitudes, etc. Donc au moins, si c'est écrit, c'est clair. Et...
voilà. Et comme disait Sophie, ça permet de clarifier les choses dès le départ. Sylvain, tu voulais intervenir ?
Oui, du coup, cette relation de confiance, elle doit être, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus, elle est, puisqu'on est les premiers intervenants, on va dire, elle est aussi avec nous. Il faut bien que les gens, ils se disent, ils n'ont rien à nous cacher, nous, de toute façon, on n'a aucun intérêt derrière, on ne touche rien sur les travaux, etc. Mais tout ça pour vous dire que il faut essayer un maximum de nous donner tous les éléments, et après, on fait aussi, on est à nos bureaux, comme Caroline dit aussi, on ne peut pas se permettre de faire toutes les visites, d'aller partout. Donc, plus on nous donnera d'éléments, plus on pourra aussi donner des meilleurs conseils. Et après, sur moi, du coup, nous, Lozère Énergie, sur ce côté technique-là aussi, on va peut-être dire des choses à des moments, et l'artisan sur place, il va voir autre chose. Nous, on ne l'a pas vu parce qu'on n'est pas allé sur place. Donc, il y aura des choses où on pourra se contredire. Mais voilà, il faut garder toute confiance au niveau des artisans. Globalement, je crois que sur le département, voilà, il y a ce côté confiance aussi qu'on a. C'est un petit département aussi. S'il y a des artisans qui font une bêtise, il n'en fera pas beaucoup. Après, ça se saura. Donc, normalement, franchement, des retours qu'on a, nous, des clients, il n'y a aucun problème. Il faut faire confiance à son artisan. Il n'est pas là systématiquement pour rouler dans la farine. Et il ne faut pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs, à faire venir des artisans d'autres départements ou succomber à des offres alléchantes.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé aussi, tu dis on n'a rien à y gagner, mais c'est vrai que toute cette chaîne est entièrement gratuite. Qu'on vient de voir la DIL, le CAUE, Lozère Énergie ou la CAPEP pour des informations sur des artisans. On n'a rien à débourser tout le long et ça, c'est important à dire. Caroline.
Oui, je voulais juste compléter parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'aides qui ont ce qu'on appelle une éco-conditionnalité. Et donc, sur le devis, il faut que les artisans soient RGE. Voilà. Reconnu garant de l'environnement, mais peut-être Sophie, tu pourras mieux le présenter que moi, cette démarche.
Alors, la qualification reconnue garant de l'environnement, donc c'est une qualification pour que vous, en tant que particulier, vous puissiez bénéficier des aides de l'État, donc des aides de l'ANA ou l'éco-chèque de la région. Donc ça, c'est les aides que vous pourrez voir lorsque vous ficellerez votre plan de financement de votre d'achat. Du coup, reconnue garant de l'environnement, ça signifie quoi? En fait, c'est des artisans qui ont été formés. D'abord, donc ils ont fait une formation, donc plusieurs spécialités en fonction des travaux que vous allez réaliser. Donc on peut être RGE pour des travaux d'isolation, On peut être RGE pour des travaux liés au chauffage, donc aux économies d'énergie au chauffage et tout ce qui est énergie renouvelable, bois, pompe à chaleur. Et donc notre travail à la CAPEB, c'est d'accompagner les artisans à monter ces dossiers de qualification. Donc il y a une formation et à l'issue de cette formation, l'artisan va monter un dossier de qualification. Au sein de ce dossier de qualification, on renseigne et on fournit des preuves comme quoi l'artisan est qualifié, est assuré et a été formé. Donc si vous faites appel à un réseau d'artisans qui sont RGE, vous pouvez déjà vous assurer qu'ils disposent de l'assurance décennale pour réaliser les travaux. Donc c'est déjà un gage. Donc d'une, ça vous permet d'avoir les aides. Et de deux, vous êtes sûr que l'artisan va être assuré s'il y a un désordre à l'issue du chantier une fois que vous avez signé le PV de réception de chantier.
Alors justement sur les aides qui peuvent être mobilisées, donc quand Steph et Nico auront affiné leur projet, donc on va pouvoir refaire un point précis en fonction des travaux envisagés sur les différentes aides mobilisables. Il existe une flopée d'aides, que ce soit des aides financières, nationales, locales, on a parlé de l'éco-chèque logement de la région Occitanie, que ce soit des aides sous forme d'avantages fiscaux, donc une TVA réduite, des crédits d'impôt, qui existent encore pour quelques jours, des déductions fiscales, que ce soit des prêts, les coprêts à taux zéro, des prêts à taux réduit, etc. Il y a effectivement une multitude d'aides et des aides qui sont pas toujours cumulables entre elles. Donc il va falloir déterminer quels sont les dispositifs d'aide qu'il est le plus intéressant de mobiliser pour mon projet. Donc là, c'est vraiment le rôle de la DIL de présenter ces dispositifs, de vérifier avec le ménage quelles sont les aides mobilisables, notamment les aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui est une agence de l'État, qui va pouvoir aider les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, mais en l'occurrence les propriétaires occupants modestes ou très modestes, à faire des travaux, notamment des travaux d'économie d'énergie. Donc on va effectivement expliquer ces dispositifs, voir avec quoi c'est cumulable, notamment pour les salariés du secteur privé. Là, depuis le 30 septembre, on a de nouveaux dispositifs d'aide dans le cadre du plan d'investissement volontaire qui permettent aussi des subventions particulièrement intéressantes pour les travaux, je pense notamment aux travaux d'isolation des maisons, donc des subventions là qui peuvent aller jusqu'à 20 000 euros, donc c'est quand même pas neutre. Des aides, j'en parlais, les éco-chèque logement de la région qui peut apporter un financement de 1 500 euros. Dans le cadre du programme de l'ANA, il y a également le département de la Lozère qui s'investit dans le cadre d'un programme d'intérêt général et qui va venir abonder les subventions nationales de l'ANA par des subventions locales. Certaines collectivités, les EPCI, soit portent une OPA, soit abondent volontairement ce dispositif. Donc il y a effectivement énormément d'aides et c'est pas forcément évident pour le ménage de savoir ce qui est le plus intéressant parce que c'est pas forcément cumulable par exemple avec le prêt à taux zéro, le prêt pour l'accession à la propriété à 0%. Donc est-ce qu'il vaut mieux l'ANA et pas le prêt à taux zéro? Est-ce qu'il vaut mieux le prêt à taux zéro et les subventions d'Action Logement? C'est quand même compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, nous on pose tout ça, on fait un plan de financement ou plusieurs plans de financement pour comparer ces différentes possibilités. Et puis si ce sont les aides de l'ANA qui sont retenues, on va orienter vers les opérateurs de terrain pour le montage du dossier et notamment vers Lozère Énergie, sur certains secteurs.
Sur certains secteurs, ce qu'on appelle le lot centre-est, c'est-à-dire les communautés de communes Randon Margeride, la communauté de communes du Haut-Allier et la communauté de communes qui fait le blé Marville-Fort, là je me rappelle plus du nom. Bon, Lozère Régoulé, voilà. et puis de l'autre côté, l'Aubrac, Apcher Margeride, Aubrac, Gorge. Gorge, Aubrac, Lot-Cosse, Gorge, voilà, la partie ouest, on va dire, du département, et Biel et la communauté de communes du Gévaudan, donc, qui est un peu plus spécifique par rapport aux autres, puisqu'il y a une OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, où là, du coup, on va s'adresser non seulement aux propriétaires occupants qui veulent rénover énergétiquement, mais aussi sur le côté autonomie et également les propriétaires bailleurs.
Et du coup, si Steph et Nico, ils ont été démarchés par quelqu'un au téléphone, et du coup, ils ont dit, mais de toute façon, l'isolation des combles, ils la payent que 1 euro. Donc, des gens, ils peuvent commencer par ça leur coûtera qu'un euro.
Ah ah. Alors là, on va dire à Steph et Nico, venez dimanche au salon Artisan Nature, puisqu'on organise une conférence sur le thème isolation à un euro, art déco réalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de démarchages téléphoniques sur les réseaux sociaux, etc., sur cette isolation à un euro. Attention.
Par téléphone aussi, moi j'étais. Ouais, on m'a appelé.
Beaucoup. Hein.
On a fait une émission dessus avec la DIL, oui.
Ouais, effectivement. Il faut être vigilant parce qu'effectivement, ce dispositif, finalement, qu'on appelle isolation à un euro, qui s'appelle en vrai le coup de pouce isolation, c'est un vrai dispositif dans lequel certains petits filous cherchent à abuser un petit peu et à se faire de l'argent sur le dos de ménages un peu voilà, un peu crédules ou pas assez informés. Donc ce qu'on dit, si vous êtes démarché, il n'y a pas d'urgence, c'est que vous-même, vous n'aviez pas pris l'initiative de commander ces travaux, donc a priori, il n'y a pas d'urgence à signer quelque chose demain. Donc, ok, vous êtes démarché, vous vous interrogez sur le fait de dire, bah, pourquoi pas isoler mes combles? Ben, ok, venez nous rencontrer, on va vous expliquer l'ensemble des dispositifs, vérifier votre éligibilité et attirer votre attention sur certains points de vigilance. Ce coup de pouce isolation, comment ça marche ? Ben, en fait, ce sont les fournisseurs d'énergie ou les distributeurs de carburant qui ont l'obligation, de par la loi, de contribuer aussi aux économies d'énergie. Donc on a un catalogue d'aides dans lequel qu'ils peuvent apporter, notamment l'isolation des combles ou des planchers bas. Et le gouvernement, en début d'année, a posé un montant minimum d'aide selon les revenus des ménages. Et pour les ménages modestes, cette aide, elle va être de 20 € du mètre carré pour l'isolation des toitures ou des combles et de 30 € du mètre carré pour le plancher bas. Du moment qu'on fait appel à un artisan RGE, donc je fais appel à mon artisan local, il me fait un devis, je fais ma demande d'aide financière sur un site partenaire inscrit dans le dispositif, l'artisan réalise les travaux, je paye ma facture et je perçois les aides. C'est tout à fait possible et dans ce cas-là, en général, il n'y a aucune difficulté. Certaines entreprises, pas locales pour le coup en général, se sont vraiment inscrites et spécialisées dans ce type de travaux et du coup vont acheter l'isolant en quantité industrielle et le même type d'isolant qui va pas forcément être celui qui correspond précisément à votre maison, votre bâti ancien, etc., hyper ventilé ou avec des problématiques de confort d'été, c'est un isolant acheté en quantité industrielle et avec des modalités de pose qui doit coûter le moins cher possible pour que l'entreprise arrive à se faire la marge la plus conséquente possible sur les aides. Et on a vu effectivement certaines situations où les travaux étaient réalisés par des sous-traitants qui, selon toute vraisemblance, n'avait pas forcément l'habitude et les qualifications pour poser l'isolant, des chantiers qui étaient pas finis quand l'entreprise repart, des isolants qui tiennent pas, notamment sur les plafonds de garage, des isolants qui tombent, donc a priori le pouvoir et la conformité des travaux n'est pas là. Qu'est-ce qu'on a vu?
Il y a les règles de l'art qui sont souvent pas respectées. Il y a le fait de même s'ils vous montrent que ils vont vous mettre 30 cm d'isolant. Souvent, ils n'enlèvent pas la vieille laine de verre qui est toute tassée. Malgré tout, il reste quelques centimètres. Ils l'enfoncent bien dedans. Ils ont gagné 10 cm là où ils vous soufflent. Le peu de temps qu'ils y passent, ils vont pas pouvoir aller comme il faut dans les coins, etc. Ils vont souffler ça au milieu. Après, est-ce qu'ils vont aussi respecter le tassement qu'il va y avoir ? Parce qu'ils vous disent, il y a 30 cm, mais sauf qu'après tassement, vous allez perdre 5 ou 6 cm de suite. Sur les plafonds des garages, ils vont vous faire le tour des néons, donc vous allez perdre. Le néon, il va se retrouver à 10 cm sous de l'isolant, ils vont pas passer sur les tuyaux, ils vont pas lever les gaines, ils vont faire zéro travaux préparatoires. Donc peut-être qu'un artisan local, il va vous coûter un peu plus cher. Mais encore que l'aide de 20 € par mètre carré, par exemple, pour le toit, ou de potentiellement 30 € par mètre carré pour le plancher bas, va en couvrir une très grosse partie. Mais il va vous faire tous les travaux préparatoires, il va vous faire les travaux dans les règles de l'art, et il va vous faire des travaux de qualité. Quoi.
Mais au-delà du fait que c'est rarement réalisé dans les règles de l'art, ce qu'on peut, pour revenir à Nico et Steph, effectivement... leur rappeler encore une fois, ça peut être judicieux avant de se précipiter, puisqu'il n'y a pas d'urgence, de vraiment
repenser ce projet de travaux-là dans un projet de travaux de la performance énergétique plus globale, à la fois du point de vue efficacité pour la performance énergétique de la maison, mais aussi du point de vue éventuellement des aides, parce que ça peut parfois être bien plus intéressant d'avoir un projet global et de mobiliser d'autres aides que de partir sur de l'isolation à 1 euro et puis après de vouloir remplacer des menuiseries ou faire une isolation du plancher bas sur lequel on va peut-être pas pouvoir mobiliser quelque chose parce qu'on aura déjà eu à utiliser l'isolation à 1 euro, ce genre de choses. Donc repenser dans sa globalité, il y a d'autres aides qui existent avec des possibilités comme Caroline a insisté dessus, comme Sylvain l'a dit, aussi de pouvoir choisir les matériaux qu'on va poser en fonction de la maison, des caractéristiques techniques de la maison, de l'endroit où on est situé, et puis encore une fois, Sophie va pas dire le contraire, de pouvoir choisir ses artisans, de faire appel à l'artisanat local qui a été formé dans les règles de l'art, etc., qui a aussi l'assurance d'avoir un travail de bonne qualité. Et on a la chance d'être dans un petit département, donc le bouche à oreille aussi, c'est un garde-fou. C'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi, sinon ça se sait.
Sur toutes ces aides, on demande donc des artisans labellisés RGE. Il y en a beaucoup sur le département qui ont cette qualification, Sophie, sans avoir les chiffres exacts.
Il y a plus de 100 artisans qui sont qualifiés RGE, on doit être à 150, quelque chose comme ça. Toutes qualifications RGE confondues.
Donc sur le site www.fer.fr, on peut retrouver effectivement, en indiquant son secteur géographique et les travaux qu'on veut envisager, la liste des entreprises RGE avec leurs qualifications. Donc ça permet effectivement de pouvoir contacter, d'être sûr de contacter des artisans qui ont le label, qui sont formés, qualifiés. Il faut pas hésiter, soit à aller directement sur le site, soit à interroger effectivement que ce soit Lozère Énergie, le CAUE, la DIL, on donne ces listes d'artisans.
La CAPEB les donne aussi, j'imagine que voilà, j'ai tous mes travaux à faire, j'ai besoin de certains corps de métier, je vais avoir la CAPEB. En Lozère, tous les corps de métier pour la rénovation de maisons sont disponibles ou il nous en manque certains?
En Lozère, vous trouvez tous les savoir-faire disponibles pour réaliser des travaux, il n'y a aucun problème. On a un artisanat très riche en Lozère. On a le département avec la densité d'artisans par habitant la plus élevée de France. Donc il y a un artisan au moins par commune. En plus, on n'a pas la même relation avec son artisan que quand on fait appel à des grosses boîtes dont de ces ou qui le lendemain ont disparu, quoi. Voilà, on a aussi la chance d'avoir des entreprises qui sont connues, où on sait qu'elles sont assurées, qui ont travaillé chez les voisins ou chez nos parents, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut voir les choses, et c'est comme ça qu'il faut consommer, je pense, en Lozère.
C'est bien de le rappeler parce qu'effectivement, nous, quand on a des ménages qui viennent nous rencontrer, parfois on leur dit, il faut un artisan RGE pour installer votre chaudière à granulés. Et puis certains nous disent, oh là là, où c'est que je vais trouver ça? Il y en a pas. Et quand on leur donne la liste, ils disent, ah bon, mais tout ça, mais ah, mon plombier, finalement, il le fait aussi. Donc il y en a et il faut être rassuré par rapport à ça.
Puis pour rebondir sur la question des artisans et des artisans de qualité, Nico et Steph vont faire une rénovation de bâti ancien, donc s'il faut qu'ils touchent à la toiture, aux enduits, aux menuiseries, il y a d'autres aides financières qui sont possibles et qui sont liées là à la rénovation extérieure, notamment les aides de la Fondation du patrimoine, qui est une défiscalisation, ou quand on est un secteur architecte des bâtiments de France, on peut avoir l'aide des abords de monuments historiques, notamment pour les toitures en loze. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à faire une rénovation de qualité, aussi bien architecturale qu'énergétique, parce que du coup on est en général plutôt bien aidé.
Et puis lorsqu'on envisage la rénovation de sa maison, la maison où on va vivre une bonne partie de sa vie, il faut pas non plus se précipiter. C'est-à-dire que on est à la mode du tout de suite. Je veux demain que mon artisan intervienne. Faut se poser des questions sur celui qui est disponible demain. Est-ce que c'est celui qui est de qualité? Ou est-ce que je préfère attendre 3 mois, 6 mois, parce que l'artisan, qui a un carnet de commandes à 3 mois, 6 mois, 9 mois, je veux lui parce que je suis sûre que derrière, il y aura de la qualité. Enfin voilà, il faut se poser aussi les bonnes questions et il faut arrêter de vouloir du tout de suite, tout cuit, quoi.
Et des prix trop alléchants, ça se rejoint directement.
Voilà. Et puis, et parfois, ça fait peur, ça aussi, au ménage, en disant, oui, mais si mon artisan, il intervient dans 3 mois, moi, je vais acheter maintenant, du coup, comment je vais faire si je commence à rembourser mon crédit, etc. Donc, sur tous ces aspects aussi de technique bancaire, hein, j'ai envie de dire, on va pouvoir informer et rassurer le système bancaire à horreur du vide, comme plein de domaines. Donc, ils ont inventé des solutions, effectivement, des intérêts intercalaires, des prêts à palier qui vont pouvoir être mobilisés pour justement anticiper ça. Si je peux pas y habiter tout de suite, mais que mes travaux vont durer 6 mois, 1 an, mais pendant ce temps-là, je peux ne pas payer mon prêt ou payer qu'une partie de mon prêt pour pouvoir continuer à payer mon loyer. Et tout ça, ça s'anticipe, ça se prépare dans le contrat de prêt. Quand on explique comment ça fonctionne, voilà, les ménages, ils vont être rassurés après. Ils vont pouvoir attendre effectivement ce temps-là sans se mettre en difficulté, sans être bloqués, sans qu'ils puissent être coincés dans le remboursement de leur prêt. Voilà, tout ça, ça s'organise, ça se gère et c'est possible.
Et on a vu toutes les démarches à faire au fur et à mesure pour cette question qui touche beaucoup de personnes, hein, l'achat d'un logement, la rénovation d'un logement. C'est toute une chaîne à prendre du temps pour se renseigner, pour trouver après les bonnes solutions aux questions que l'on se pose.
C'est ça, parce que chaque projet est différent, effectivement, hein, selon la commune dans laquelle on se trouve, selon sa situation personnelle, financière, professionnelle, selon les caractéristiques du bâtiment, etc. On va vraiment apporter les uns et les autres des conseils personnalisés. Donc, faut pas hésiter à venir nous rencontrer, quel que soit votre projet lié au logement ou à l'habitat, pour qu'on vous donne ces conseils neutres, gratuit et personnalisé en fonction de votre projet. Alors des fois, on pose, avant de donner une réponse à la question à quelles aides je peux prétendre, on va poser 15 questions, donc c'est un peu l'inquisition, mais c'est vraiment pour pouvoir affiner le conseil et donner les informations les plus précises possibles.
C'était le bon conseil du jour ?
J'en ai un autre quand même, venir sur le salon Artisan Nature pour nous rencontrer pendant tout le week-end.
Voilà, vous pourrez en rencontrer un peu tous les corps de métier, en plus des organismes qui vous aident dans vos démarches. Pour appeler le CAIE, on peut vous joindre par téléphone, on vient vous voir quand, vous êtes situé où ?
Alors le CAIE, on est situé 16 boulevard Brittext, donc à côté du nouveau bâtiment Olympe de Gouges. On est ouvert pour l'accueil du public le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi par téléphone. Et vous pouvez aussi nous voir pendant les rendez-vous délocalisés. Donc là c'est pareil, à chaque fois c'est sur rendez-vous, donc n'hésitez pas à appeler ou envoyer un mail.
Même question pour Lozère Énergie.
On est les voisins du CAIE, mais nous on est à Olympe de Gouges. Et du coup, pour nous rencontrer, ce sont lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi. Et après, on fait des permanences délocalisées, pareil, sur le département au niveau des maisons et services au public.
La CAPEB est au soleil.
La CAPEB est située au Cosdoge, 3 rue des Tours. Donc n'hésitez pas, notre numéro 04 66 49 04 78.
Voilà, et pour finir, la DIL en permanence le vendredi après-midi, le mercredi.
Le mercredi, mais déjà la DIL, elle souhaite remercier vivement tous ses partenaires d'avoir joué le jeu de cette émission en direct. On sait qu'on peut compter sur nos partenaires au quotidien et c'est précieux, c'est vraiment dans notre ADN à la DIL. Et puis remercier aussi Ludo de 48FM pour toutes ces chroniques qu'on partage, la 100e aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y en aura encore plein d'autres puisque les thèmes ne manquent pas. Et pour nous joindre, je vais laisser Aurélie, elle le fait mieux que moi.
Alors pour nous joindre au 04 66 45, pas du tout, j'ai un gros trou.
49 36 65.
C'est vrai, mais alors pour l'anecdote, c'est vrai qu'on connaît mieux le numéro de téléphone de nos partenaires que de nous-mêmes parce qu'on donne plus souvent le numéro de téléphone des partenaires que de la ville. Mais donc 04 66 49 36 65 et on est au 12 bis avenue Foch, donc à côté de la cité administrative. Et comme Lozère Énergie et le CAE, on fait des permanences délocalisées dans les maisons de services au public.
Eh bien, merci à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Ciao.
Au revoir. Au revoir.